Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter contre la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État? Serge Bondedi, coordonnateur de la campagne École ESA Mumbongote, l'école n'est pas un business, est notre invité. Serge Bondedi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jeudi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État. Vous avez des questions et préoccupations, fidèles auditeurs, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansunga à la mise en onde, Tati Mapuku à la réalisation. Marcel Ngombo coordonne cette émission présentée par Jeudi Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jeudi Daniel Kachama.
Okapi.
En République démocratique du Congo, les candidats finalistes de l'année scolaire en cours s'apprêtent à passer les épreuves de la grande session de l'examen d'État. Déjà, ils passent les hors-sessions. Les promoteurs des écoles mettent toutes les batteries en marche pour obtenir 100% des réussites, car il va de la réputation de leurs établissements. Et cela favorise toutes sortes de pratiques, comme par exemple le phénomène mercenaire, la fuite des items, la corruption des surveillants et des inspecteurs, la transmission des résultats par WhatsApp, disons des réponses par WhatsApp, par SMS et autres. Il y a plusieurs techniques sophistiquées pour tricher. Comment lutter contre ces phénomènes? Eh bien, nous recevons Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG IMAE et coordonnateur de la campagne École ESA Mumbongote. Serge Bondedi, d'après vous, qu'est-ce qui explique que de plus en plus les années passent, plus les élèves et les promoteurs des écoles, les enseignants développent des techniques sophistiquées de tricherie?
Oui, merci beaucoup. Je vous félicite et je vous remercie infiniment pour cette opportunité de parler sur ces sujets, cet épineux problème de la tricherie organisée, orchestrée, voire même planifiée lors du déroulement des épreuves de l'examen d'État. Chaque année qui passe, ce sont le même fait qu'une font que se dessiner, s'ancrer davantage dans notre système éducatif, et c'est là avec des conséquences vraiment assez dramatiques sur l'avenir des enfants, sur leurs compétences, ce qui fait que la société sombre de plus en plus dans le sous-développement, parce que les citoyens qui sont produits dans le marché de l'emploi ne sont pas assez compétitifs. Je crois que ces phénomènes s'expliquent à cause de l'absence de la prise en charge. D'abord, l'État, il a la première implication ou responsabilité, c'est d'abord l'État qui par manque de volonté politique à prendre en charge à bras les corps l'organisation des épreuves de l'examen d'État qui favorise cette tricherie. Et vous avez également toujours l'État qui s'est presque totalement désengagé de ses missions et obligations, laissant ainsi tout le personnel à la solde des parents. Vous avez également le budget alloué à l'organisation des épreuves qui parfois n'est pas affecté. Vous avez ces problèmes qui perdurent de double financement de l'examen d'État. Tantôt c'est l'État, tantôt ce sont des parents, vous voyez un peu, qui font que ces choses se passent vraiment du point de vue gouvernance, sans la transparence au niveau du ministère du budget, que ce soit au niveau du ministère des Finances et au ministère des EPST. C'est tout ça aussi qui pousse ainsi les écoles à se référer aux parents.
Alors Serge Bondé dit, quelles sont les différentes techniques des tricheries ou les sortes de tricheries qui reviennent souvent pendant la période de l'examen d'État?
Oui, pour identifier ces différentes formes de tricherie, je nous rappelle que nous avons réalisé des enquêtes. La première était axée aux écoles, et donc un certain nombre d'écoles, et puis d'autres qui étaient des centres de passation des épreuves, et qui cette enquête nous a permis de catégoriser ces différentes formes de tricherie. Et nous sommes passés aussi à une deuxième enquête. Celle-là, nous sommes allés auprès des étudiants qui, hier, l'année passée, étaient des élèves et nous ont attesté, effectivement, ces différentes formes de tricherie.
Quelles sont ces formes de tricherie?
Vous avez le suivi de l'examen d'État. Et c'est-à-dire que l'enfant qui doit tout donner par son intelligence et attendre le résultat, il faut user des moyens de fraude pour que, coûte que coûte, le résultat soit en sa faveur. Vous avez la fuite des questionnaires de l'examen, c'est-à-dire que les enfants ne veulent pas, en complicité avec l'école, en complicité avec les inspecteurs, ne veulent pas affronter les épreuves, mais ils s'arrosent les droits d'obtenir ces questionnaires bien avant pour préparer en toute tricherie la résolution des épreuves. Vous avez également l'usage des téléphones portables pendant les examens. Vous savez que les instructions, les règlements du ministère interdisent l'accès des téléphones portables ou tout appareil électronique, mais malheureusement les gens s'arrose à complicité avec les chefs des centres pour que un ou deux enfants dans une même salle appartenant à une même école se retrouvent avec un téléphone pour que de l'extérieur, lorsqu'il y a déjà la fuite des questionnaires de l'extérieur, on puisse faire parvenir aux enfants la résolution des problèmes qui est effectué par les enseignants ou soit le mercenaire. Vous avez également l'intrusion de mercenaires lors de 4 jours, c'est-à-dire que vous avez un étudiant qui a l'apparence d'un élève, ou soit un enseignant qui a l'apparence physionomique d'un élève, qu'on s'arrange en complicité avec le chef des centres et les surveillants pour qu'il porte les uniformes et qu'il passe l'examen avec les enfants, et c'est celui-là qui est l'élément moteur.
Serge Bondé dit, on va continuer à identifier ces différentes formes de tricherie. Nous allons accueillir, permettez-moi d'accueillir des auditeurs, Mbouyi depuis Luisa et Guy de Kananga. Mbouyi, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la triche lors des épreuves de l'examen d'État?
Moi, je pense que c'est tout à fait d'ordre exceptionnel pour cette année, parce que avec la pandémie de la COVID-19, les enfants n'ont pas bien assimilé la matière, compte tenu de l'anxiété, de la maladie qu'elle poussait à travers le monde. Et nous pensons que de cette manière-là, nous n'aurons pas tellement à avoir des résultats satisfaisants à la fin de ces épreuves. Parfois, il y aura des enfants très intelligents qui auront à satisfaire à ces épreuves, et parce que cette pandémie a causé une sorte d'anxiété psychologique des enfants pendant cette période.
Bien, merci Mbouyi, qui nous dit qu'à cause de la pandémie, les enfants n'ont pas bien préparé ces épreuves, donc il y a risque d'avoir un niveau très élevé de tricherie. Guy, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, moi, ma préoccupation est la plus simple. Bon, dans cette période, cette année, de les enfants vont présenter les examens. À mon humble avis, ils n'ont pas suivi les études normalement. Et à ce sujet-là, je crois qu'ils ont toujours peur de faire bien ces examens. Alors la tricherie sera occasionnée. Par exemple, un témoignage que je vous donne ici au Kassai Central. Il y a une somme d'argent en dehors de l'effet que l'État a demandé, qu'on est en train de cotiser 50 000, c'est une somme d'argent réservée pour caisse. Je ne sais pas quelle caisse, c'est pour la corruption. Alors, l'État congolais ne peut même pas mesurer de cadrer toutes ces choses-là. C'est notre État congolais. C'est comme si c'est l'État qui veut combattre la corruption ou les antivoleurs, et c'est elle-même qui l'utilise par ses services. Parce que les inspecteurs sont là-bas, ceux qui vont venir inspecter les enfants organisés. Ils ont tendance à avoir des enveloppes. C'est pourquoi moi j'ai proposé comme solution. Il y a une organisation anti-corruption, je ne sais pas comment on appelle cette organisation-là, qui doit faire des monitoring, qui doit suivre la situation de près pendant cette période, pour que le pays puisse changer. On peut avoir quand même les gens qui sont à la hauteur après terminer, ils ne puissent pas avoir des difficultés. C'est ça ma contribution que moi j'avais.
Merci Guy. Merci beaucoup Guy de Kananga. Serge Bondedi, vous avez la parole.
Oui, je crois que ils ont affirmé qu'il y a effectivement des cas de fraude massive qui sont perpétrés lors de ces épreuves, mais là où nous ne partageons pas le même avis ou le même point de vue, lorsqu'ils estiment que c'est à cause de la pandémie. Non, chaque année qui passe, il y a le phénomène 100% où qui au fait est l'expression de tu me donnes de l'argent, je te donne ton diplôme. Et les années passées, il n'y avait pas la pandémie à Covid-19.
Oui, Serge, Mbouy de Louise a dit ceci. À cause de la pandémie, les enfants n'ont pas bien préparé les épreuves. Alors, il y a risque de connaître un niveau très élevé de tricherie parce qu'ils ne se sont pas bien préparés.
Mais c'est quelque chose qui se dessine, qui s'effectue chaque année. Chaque année, tellement qu'il y a le système des 100% qui s'est installé. Et ce système décourage ou ne favorise pas la préparation correcte des examens parce que il y a le rendez-vous du donné et du recevoir par rapport à l'argent. C'est ça, en fait, qui est l'épicentre de la fraude dans la passation de l'examen d'État.
C'est-à-dire que chaque promoteur de colle veut soigner l'image de son école, alors il faut absolument obtenir 100% de réussite.
Exactement, c'est ce qui se passe. Chaque promoteur, même au niveau des écoles publiques, c'est ça la danse, c'est ce qui se passe. Les gens sont interconnectés pour pomper suffisamment des capitaux et cela provient de l'argent des parents. Et donc ce n'est pas la pandémie qui en fait est la cause de ce qui va se passer cette année. Chaque année cela se passe. Les élèves de l'année passée ont attesté cela lors de notre enquête. Donc c'est ce qui est fort regrettable. Ici, il faut dénoncer, il faut que l'État ait le courage de prendre à bras le corps l'organisation correcte de ces épreuves de l'examen d'État et non laisser aux individus d'imposer leurs lois, ce qui fait que cet examen d'État est devenu un fourre-tout où tous les antivaleurs, tous les actes non pédagogiques, tous les actes contraires aux mœurs et à l'éthique professionnelle puissent se commettre en toute impunité, en toute complicité, en toute orchestration, parce que, au fait, l'examen d'État, c'est une occasion où les gens se retrouvent.
Serge Bondedi, Guy de Kananga nous dit qu'en plus des cotisations, de l'argent demandé pour ces épreuves, les élèves ont ouvert des caisses à côté où ils cotisent chacun 50 000 francs congolais. Alors ils se demandent à quoi va servir cet argent.
Cet argent sert à faire les suivis, comme je vous ai dit l'autre fois, ou à user de toutes les formes de fraude, parce que notre système éducatif, les gens pensent qu'il suffit d'avoir les diplômes, c'est ça la fin en soi. Donc, ce qui fait que après avoir passé ou obtenir son bac, soit l'enfant n'est pas compétent par rapport à son domaine de prédilection, soit il n'est pas compétitif. C'est parce que on fait croire aux gens qu'il faut coûte que coûte obtenir le diplôme d'État. C'est ça maintenant qui fait que le promoteur ou le chef d'établissement puisse utiliser cette envie des enfants qui sont au fait des innocents, ce besoin-là d'obtenir le papier, les diplômes, que ça devienne un combat pour eux
Serge,
au prix de tous les sacrifices.
Comment se fait les suivis, au fait?
Comment se fait les suivis? C'est-à-dire que les enfants, comme l'auditeur a dit, ils vont se cotiser et avec... malheureusement, il y a aussi les parents qui sont informés de cela et ils disent aux enfants, vous n'avez pas le choix, c'est le pays, il faut faire avec. Et lorsque les enfants ont cet argent, ça permet notamment aux chefs d'établissement ou aux promoteurs de corrompre d'abord les chefs des centres, de corrompre le surveillant, de corrompre l'inspecteur, et lorsque les enfants vont passer l'examen d'État, qu'est-ce qui va se passer à travers cet argent de suivi? Puisque depuis que la correction est devenue informatisée, tout se joue au niveau du centre de passation. C'est-à-dire que l'inspecteur ou le chef de centre va s'arranger à placer dans une même salle de classe les enfants issus d'une même école pour que cela puisse faciliter la collaboration. Et en deuxième niveau de la fraude ou de la tricherie, lorsque les enfants vont terminer la passation, lorsqu'ils vont collecter tous les items, le frais de suivi va permettre à ce que les chefs de centre, en collaboration avec les chefs d'établissement, et toutes les personnes impliquées dans cette fraude, de corriger les copies qui ont été mal résolues. Vous voyez? Et ce qui fera que lors du convoyement des items, tout va aller comme si les enfants qui ont répondu correctement. Et voilà un peu ce qui serve le frais de suivi. Donc, on arrange tout au niveau du centre pour que les items soient convoyés en bonne et due forme, très bien résolus, comme si c'était les enfants qui ont très bien fait les opérations.
Voilà, donc ça c'est une corruption bien organisée.
C'est très bien organisé parce que les chefs d'établissement ou les promoteurs livrent l'information soit par personne interposée, soit directement aux enfants. Les enfants informent à leur tour les parents ou les tuteurs. Ces derniers trouvent de l'argent pour les enfants et les enfants viennent payer dans des circuits mafieux. Généralement, les écoles interrogées ou les enfants interrogés nous ont dit que le chef d'établissement responsabilise un enseignant ou un personnel de l'école qui s'occupe maintenant de ces recouvrements. Et lui, maintenant, comme chef d'orchestre, va organiser les choses pour que les choses se passent de cette manière-là. Mais malheureusement, au détriment du système éducatif, au détriment même de l'avenir et du devenir de ces enfants, qui en réalité, ce sont des innocents, mais ils trouvent un système perpétré dans notre société, ils trouvent un système bien orchestré, et ce sont les politiques, ce sont les hauts responsables, ce sont tout le monde qui en tire profit, et ce qui fait que nous avons des finalistes parfois qui ne savent ni lire, ni écrire.
Bien, comment lutter contre la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État? Vous voulez participer à cette émission? Écrivez-nous à service@radiocapi.net.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, Radio Capi vous propose durant 90 jours des programmes variés. Suivez sur nos antennes l'impact des activités des agences onusiennes à travers le monde et en République démocratique du Congo. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Radio Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Comment lutter contre la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État? Benjamin est à Kananga, Ingele à Kinshasa. Benjamin, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Bayen Kachama. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Ok, monsieur Joly. Je suis particulièrement intéressé par le choix du sujet, étant donné que nos élèves finalistes passent déjà les épreuves hors session, et je crois que le lundi prochain, ça sera l'exétat, donc la session ordinaire. Et si je dis, les problèmes de la tricherie aujourd'hui aux examens d'État, on ne peut pas en parler parce que c'est une habitude qui traîne depuis de nombreuses années. Moi, je trouve que quand on parle de la tricherie aujourd'hui, il y a d'abord une complicité entre les chefs de centre, les inspecteurs, aussi les préfets. Parce que comment expliquer? Pendant que les élèves passent, par exemple, leurs épreuves dans la salle, vous allez remarquer que les carnets de l'examen d'État sont déjà sortis. Et parfois, ces carnets sont travaillés la nuit au maquis où logent les élèves. Et quand ces derniers viennent au centre pour passer leurs épreuves, hein, ils sont déjà armés avec leurs propres cartouches. Ou soit, si ce n'est pas le cas, dès qu'on termine les labos par les enseignants bien choisis dans leur institution scolaire, les résultats déjà travaillés sont communiqués aux élèves par les CMS. Et conséquence, nous avons des milliers de jeunes filles, tout comme des jeunes garçons diplômés aujourd'hui, mais qui ne peuvent jamais aider les pays à avancer. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas le temps de se consacrer aux études, ils pensaient toujours à tricher, et même leurs responsables scolaires sont complices dans ces trucs-là. Voilà pourquoi ils sont aujourd'hui là et ne contribuent à rien à la bonne marche du pays.
Benjamin, vous dites que les élèves viennent dans les salles avec des cartouches. Quel type de cartouches?
Oui, ce sont déjà des réponses-là, déjà notées sur le bout des papiers. Parfois, c'est mis sous leurs pieds, dans les chaussures, ou soit caché même dans leurs parties intimes là. Et quand un élève entre dans la salle comme ça, vous voyez comme s'il n'a rien, alors que dans ses habits, il y a des bouts de papier là. Oui, oui, ça peut être un bout de papier là, un bout de papier. Et même si on les sort comme ça, même vous qui êtes à côté, vous vous rendez compte qu'il n'a presque rien. C'est ça, ce sont les habitudes qui se passe ici à Kaname, c'est joli. Vous allez remarquer encore que quand un élève est assis, peut-être on peut bien placer les élèves là, surtout les filles, à la première rangée. Et une fille là va se mettre sur les bancs, exposer ses parties intimes. Peut-être qu'il n'a pas même de sous-vêtements. Et tout ça, c'est pour détourner les surveillants de leur vision. Et quand un surveillant commence à circuler comme ça, il va voir la fiche là, ses parties intimes là, exposé, et directement il est dans la panique, l'examen commence déjà à circuler. Vraiment, ce sont des habitudes là qui traînent depuis de nombreuses années.
Donc il y a voilà de plus en plus de techniques sophistiquées chez les élèves.
Oui, mais c'est joli. Voilà pourquoi moi je proposerais, pour qu'on puisse lutter contre ces phénomènes qu'on appelle ici au Casa Central Labo, il faut qu'on commence à mettre hors d'état de nuit tout le monde là qui est impliqué dans la corruption. En commençant par les inspecteurs qui sont choisis parmi les chefs des centres. Parce que comment expliquer, M. Jody, là où les examens d'État sont composés, les préfets ne sont pas là. Mais ils parviennent à avoir les carnets des examens d'État là-haut. Donc ils achètent, c'est ainsi qu'ils viennent demander de l'argent aux élèves pour qu'ils puissent continuer
à... Oui. Merci beaucoup, Benjamin de Kananga, pour cette intervention. Ingele, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à tous nos auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État?
Merci beaucoup Jody. Je dis ceci, pour lutter efficacement par rapport à la tricherie qui se passe à l'examen d'État, premièrement d'abord, il faut recruter les bons surveillants, donc des bons surveillants pendant la passation, et puis éviter que les politiques s'interviennent à l'intérieur de la décision, parce que pendant les recrutements en question, il y a des politiciens qui envoient ces agents, donc ces membres politiques, pour gagner quand même quelque chose qu'on propose après l'examen d'État. Et puis il faut mettre des moyens nécessaires chez les inspecteurs, parce que les inspecteurs vendent les items avant même la passation de l'examen d'État. Et puis, ce qui s'est fait que les élèves, avant même d'aller au centre, ils passent d'abord à l'école et puis reçoivent des instructions. Des instructions, surtout les items déjà résolus. Les items déjà résolus, et voilà ce qui bloque vraiment en tout. Et puis, améliorer un peu les primes des risques des inspecteurs, parce que ce sont eux qui sont des pionniers dans cette passation. Alors, je propose ceci, que le gouvernement, et à travers les ministres de l'EPST, qu'il met un peu de rigueur sévère vraiment pour punir les inspecteurs qui doivent faire cette pratique. Voilà un peu ce que je peux intervenir dans la lutte contre la tricherie.
La tricherie. Merci, okay. Ingele de Kinshasa. Kamumba, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Alors, nous parlons de la lutte contre la triche lors des épreuves de l'examen d'État. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oh, d'après moi, d'abord, je veux dire que, vous savez, dans notre pays, il y a toujours la corruption. Bon, je n'allais pas dire que dans tous les pays, mais dans les écoles.
Oui, vous dites qu'il y a, il y a toujours la tricherie partout. Oui, maintenant, quelle est votre préoccupation?
Bon, je veux dire que, il faut qu'il y ait d'abord, par ailleurs, dans des écoles, il faut qu'il y ait des rigueurs, vraiment. Premièrement, je peux dire que les élèves, d'abord, qu'ils soient conscients, qu'ils fassent les examens avec conscience, qu'ils travaillent avec tranquillité et pas de tricherie. Deuxièmement, je peux dire que le surveillant, ils doivent être justes et pas corruptibles. Parce qu'il y a des surveillants qui traitent avec les élèves, là à l'extérieur, ils prennent des copies pour aller donner à quelqu'un là à l'extérieur pour travailler, et ça ce n'est pas normal. Il faut aussi qu'il y ait la sécurité, parce que la présence de la police sera nécessaire. C'est tout là pour moi.
Bien, merci Kamumba de Kindu. Nous avons un autre auditeur en ligne, Ignace depuis Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Ignace?
Certainement, votre sujet m'a intéressé sur les réseaux sociaux. Je pense que si aujourd'hui on veut s'attaquer à ce système-là des mercenaires, comme vous l'avez dit au niveau de Kinshasa, ici chez nous, on parle des Bintou, pour dire les choses en français. Ce sont les choses... Bon, qui se font comme ça, comme par hasard, mais un mode de système qui s'est vraiment enraciné dans les systèmes éducatifs congolais. C'est pour cela que j'étais en train de dire, il n'y a pas moyen de combattre ce système-là à part, parce que c'est presque un mode qui est généralisé. Il faut alors attaquer la corruption en général, étudier ce système-là comme toutes les antivaleurs qui cadrent avec la corruption. C'est dans ce sens-là qu'on peut arriver à éradiquer ce système-là, monsieur.
Merci d'avoir appelé de Mbujimaï. Serge Bondé dit, vous avez suivi toutes les différentes propositions des auditeurs pour combattre la corruption. À vous la parole.
Oui, merci beaucoup, Benjamin, à partir de Kalanga. Effectivement, nous parlons le même langage. Ce sont des habitudes de très nombreuses années. Malheureusement, avec la complicité des inspecteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous proposons de mettre sur la table un débat profond sur les évaluations en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut toujours continuer, est-ce toujours à l'inspection de continuer à piloter ces évaluations dès lors que le problème soulevé depuis des années ne trouve toujours pas de réponse. Donc, il sera important que l'ensemble des acteurs puissent réfléchir ensemble pour voir comment changer les choses du point de vue de gouvernance. Parce que la même inspection qui évalue les enseignants, la même qui organise les évaluations, la même qui fait la formation des enseignants, il faut maintenant voir si elle doit toujours continuer à piloter les évaluations qui sont devenues un rendez-vous de fraude massive dans notre pays et qui continuent à sombrer, à faire sombrer les secteurs éducatifs. Les chefs d'établissement et les surveillants, notre ami a parlé des cartouches qui sont en fait des aides-mémoire, parce que les surveillants, lorsqu'ils sont déjà branchés par rapport au système de fraude tel qu'ils s'opèrent, ils sont mains liées, ils ne savent pas dénoncer ou faire extirper de la salle les enfants qui sont porteurs de ces cartouches. Voilà, c'est
donc
ce regrettable.
Oui, les surveillants sont déjà neutralisés bien avant l'examen.
Ils sont déjà neutralisés parce qu'ils ont des codes qu'ils reçoivent de la part du chef des centres, et les surveillants, à un certain moment, jouent aussi un rôle prépondérant lorsqu'ils reçoivent des enfants directement une prime à la fraude, c'est-à-dire qu'au niveau de la salle des classes, les finalistes se cotisent et donnent aux surveillants à ce moment-là. Ce cas de figure intervient lorsque le chef de centre est un peu dur. C'est à ce moment-là maintenant, les élèves, sous l'impulsion de leur chef d'établissement, cotisent au niveau des salles pour corrompre les surveillants. Et les surveillants, à ce moment-là, laissent la libre cours aux enfants de coopérer, de collaborer. Et à ce moment-là, les surveillants deviennent les surveillants du chef du centre ou des agents de sécurité lorsqu'ils s'approchent de la salle pour leur signaler de faire attention.
Alors, un auditeur a proposé qu'il faut recruter, il faut être rigoureux dans le recrutement des surveillants et que les politiciens ne s'en mêlent pas parce que souvent, ils viennent aussi s'aimer beaucoup de désordre.
Ce n'est même pas souvent, c'est ce qui est régulier au niveau, dans toutes les institutions. Dans toutes les institutions, les politiques envoient ou recommandent les leurs pour être affectés comme surveillants, comme superviseurs, comme intervenants au niveau des évaluations, examens d'État ou TENAFEP. C'est ce qui est fort dommage. Vous avez, à partir de la présidence, vous avez au niveau de la primature, vous avez au niveau du ministère, vous avez au niveau du Parlement, vous avez au niveau des gouverneurs des provinces, vous avez des ministres provinciaux qui recommandent les leurs, et souvent ce sont des militants qu'on envoie surveiller les enfants, des gens qui sont à la quête des moyens de subsistance pour survivre. Pour eux, l'éducation ne dit absolument rien. C'est ce qui est fort dommage, c'est ce qui nécessite vraiment la rigueur dans la mise en œuvre des règlements du ministère. Les règlements existent, mais depuis des années, ces règlements ne sont pas mis en exécution. Cette édition, vous avez toutes les institutions qui ont recommandé leurs militants de partis politiques pour qu'ils soient cooptés comme soit superviseurs, soit surveillants au niveau des centres de passation.
Serge Bondet dit, est-ce qu'il n'existe pas de critères pour être chef de centre ou surveillant?
En principe, ne peut être surveillant qu'enseignant au niveau de l'enseignement primaire. Ne peut être surveillant à l'examen d'État que l'enseignant de l'enseignement primaire. Mais malheureusement, c'est ce qui ne se fait plus. Vous avez des conseillers des ministères qui deviennent des superviseurs, qui deviennent des surveillants. Vous avez les militants des partis politiques qui deviennent des surveillants. Vous avez des vendeurs dans des marchés qui deviennent des surveillants. Et je vous révèle que dans ce système de cooptation des surveillants, il y a la pratique des rétrocommissions. Je vous informe, par exemple, pour le TENAFEP, au lieu que certains surveillants touchent 40 000 francs, ils ont touché 15 000 francs congolais, c'est-à-dire 7 500 par jour. Ces gaps-là, les gens ont envoyé ça sous forme de rétrocommission par un numéro qui a été donné même aux gens de convoyer ces fonds par système de mobile banking. Donc voilà ce qui se passe. C'est que tout ça favorise la fraude, parce que dès lors que la personne qu'on engage ou qu'on affecte comme surveillant, il est lié par les systèmes de rétrocommission ou de rétrocession, et à ce moment-là, en étant dans la salle, le premier acte que cette personne fera,
de trouver aussi les gains, parce que il sait que les enfants ont besoin de tricher, les enfants ont besoin de collaborer. C'est à ce moment-là qu'il récolte 10 000 auprès des enfants pour que lui aussi se retrouve. Donc, il est malheureux, surtout pour le député à l'intérieur, les députés nationaux, qui sont à tout moment dans des bureaux, que ça soit de ministres provinciaux, que ça soit dans le bureau du ministre national de l'EPST, accompagné des listes des gens. Je vous dis, avant ces épreuves de l'examen d'État, les députés étaient dans des cabinets, dans les cabinets du ministre, accompagné des listes des gens, parce qu'ils veulent placer les leurs. Comment est-ce que le système éducatif évoluera? Comment est-ce que les enfants obtiendront la matière, la leçon qu'il faut, si ceux qui sont censés presser, par exemple, sont là comme effet causal de la fraude?
Donc, alors Serge, comment faire pour respecter les dispositions en la matière? Vous avez dit ne peut être surveillant que les enseignants de l'école primaire.
Mais c'est fort dommage, parce que le ministre est aussi politique, il est sous l'influence de la politique. Et ce sont des officines politiques qui malheureusement influencent sur les politiques éducatives. Il faut ici que les institutions de la République comprennent la portée de cet aspect des choses, pour qu'ils puissent épargner au maximum le secteur de l'éducation de l'influence ou de l'emprise politique. Et c'est depuis, je crois, 7 ans, ou plutôt 4 ans, que cette emprise s'est accrue de la main politique. Donc, il faut que l'autorité ou le ministre puisse protéger le secteur, parce que c'est lui qui conduit cette politique nationale gouvernementale en
Serge,
matière
de... Ouais. Serge Ingele de Kinshasa a dit qu'il faut penser, il faut payer des primes aux inspecteurs pour les mettre à l'abri de la corruption. Est-ce que vous pensez que c'est une solution?
Ça fait partie des solutions, parce que je peux vous citer les cas des écoles qui organisent des sections ou des filières techniques. En principe, c'est à l'État d'accorder à ces écoles, lors des jurys pratiques, par exemple, le matériel nécessaire. Mais l'État a abandonné les écoles à la merci des parents. Où est-ce que les écoles trouvent des moyens pour organiser, pour acheter le matériel nécessaire? Et les inspecteurs qui sont envoyés, je vous dis, ils sont sous aussi l'emprise du phénomène des rétrocommissions ou des rétrocessions. Et lorsqu'ils arrivent dans les écoles, ces derniers sont obligés d'être pris en charge par les écoles. Et les chefs d'établissement qui prennent en charge ces enseignants et aussi se rebuffent auprès des parents. Et voilà un peu comment est-ce que le cycle frauduleux est organisé. Donc, il est aussi important que le gouvernement soit sérieux, que le ministre soit assez sérieux pour mettre sur la table le véritable dossier, le véritable réforme dans le cadre du pilotage du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et sur cette question des évaluations, qui chaque année, ce sont les mêmes refrains qui reviennent, mais au détriment du système. Donc, les inspecteurs doivent être sérieusement pris en charge par l'État, et dans la transparence. Dans Bien. La transparence, et non ce que nous avons appris, qu'ils sont obligés d'envoyer de frais par le système de SMS pour qu'un certain groupe de politiques puisse s'y retrouver.
Serge, on a suivi un auditeur a proposé que la structure qui lutte contre la corruption puisse ouvrir l'œil sur cette question de la tricherie lors de l'examen d'État, afin d'arriver à démanteler ce système de corruption bien établi depuis des années, qui s'est enraciné depuis des années.
Oui, oui. La lutte contre la corruption doit se faire en amont comme en aval. Vous avez d'abord les effets causaux qui généralement l'insécurité sociale qui se constitue en quelque sorte de milieux humides qui favorise cela, et puis la répression. Malheureusement, notre société, c'est ce que nous déplorons, notre société est caractérisée par la fraude. C'est tout le monde qui trouve que la fraude est normale, et c'est ce qu'il faut combattre. Donc il faut en amont que le gouvernement puisse assurer socialement la sécurité de tous les intervenants à l'examen d'État, pour qu'ils ne soient pas séduits par ce qui se passe, toute cette tentative de recourir à la fraude. Et puis, en aval, il faut qu'il y ait la répression. Il ne faut pas que quand on dénonce les choses, que des gens trouvent cela comme si c'était normal. C'est ce qui n'est pas bon. Donc, les gens dénoncent. Mais d'autre part, lorsque ce sont des politiques, lorsque ce sont des responsables, lorsque ce sont des gouvernants qui tirent profit de cette corruption, de cette fraude massive, c'est ce qui n'arrange pas les choses.
Bien, comment lutter contre la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État? Vous voulez participer à cette émission de La Vie au quotidien? Écrivez-nous à service@radioocapi.net. Postez également votre préoccupation sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Comment lutter contre la tricherie? Lors des épreuves de l'examen d'État, Alex est à Kananga, Théophile également. Alex, bonjour.
Bonjour la radio Capi, bonjour aux auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Alex, par rapport à la tricherie?
Ok, ce que je veux vous dire est que la plupart des enseignants qui contrôlent ou qui surveillent les examens sont des niais. Avant tout, on va d'abord améliorer leurs conditions de vie et par après, quand ils seront maintenant satisfaits, ils vont maintenant bien surveiller. C'est ça ce que je voulais contribuer.
Merci. Théophile, vous êtes aussi à Kananga, Malandji Wanshinga. On vous écoute.
Les autorités devront mettre les agents de l'ANR et de la police dans tous les centres des épreuves pour empêcher la sortie et l'entrée des carnets. Et ils devaient confisquer tous les téléphones dans le centre par chaque élève.
Serge Bondedi, vous avez la parole.
Je commencerai par cette histoire des agents de l'Agence nationale des renseignements et de la police. Quelle est cette édition de l'examen d'État où la police ou l'ANR a montré à l'opinion le nombre de personnes appréhendées pour cas de fraude ou des tentatives de tricherie? Ça n'existe pas, tout simplement parce que ils sont complices dans ce que nous décrions. Donc il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens se rendent compte de la dangerosité de recours à la fraude et à la tricherie. À un certain moment, les gens se plaignent au niveau le plus élevé, dans des élections, au niveau de posting dans des sociétés. C'est tout simplement parce que nous consacrons la tricherie et la fraude déjà au niveau de la base. Et lorsque les prémices sont mauvaises, tout ce qui viendra après seront pareils. Donc, l'ANR et la police, en tout cas, dès lors qu'il existe aucune statistique attestant les personnes arrêtées ou appréhendées pour cas de fraude qui est attestée par les enquêtes, par les audits sociaux, par des plaintes des parents et comme des élèves, nous ne pouvons pas espérer à ces services. Notre souhait, nous pouvons les exhorter à s'amender et à se corriger, espérons que cette année, ils pourront présenter à l'opinion les gens qui seront arrêtés pour cas de fraude. Mais en tout cas, je vous informe qu'ils sont complices dans ce qui se passe. Au sujet de NI, je sais qu'une instruction a été donnée notamment par le ministre de l'EPST pour un peu soulager les NI qui souffrent à cause d'un paiement, qui soient alignés comme les surveillants. Mais lorsque on prend un élément et qu'on le place dans un circuit déjà biaisé, il est difficile que cet élément puisse se différencier du système dans son ensemble. Le système est caractérisé par la fraude et une fraude massive, une fraude planifiée et une fraude orchestrée par des plus hauts responsables. Il faut que ces responsables se sentent interpellé et qu'il ait les soucis de faire les choses dans la normalité pour aider les systèmes éducatifs à avancer pour que ces derniers changent de comportement. Mais avoir les choses telles qu'elles se déroulent, déjà au niveau supérieur, lorsque on donne les instructions aux inspecteurs principaux provinciaux de convoyer par téléphone les fonds qui seront perçus, cela installe déjà les lits de la fraude. Et ces gens à qui on a donné des instructions, eux aussi donneront à leur tour des instructions de fraude et de la tricherie. Voilà un peu ce que nous, ce qui est fort dommage.
Serge Bondedi, quelqu'un a dit tout à l'heure, pourquoi ne pas arracher, saisir les téléphones de tous les élèves avant l'entrée dans les salles d'examen?
Officiellement, le téléphone est interdit d'accès. C'est ça la réglementation. Mais malheureusement, les téléphones se retrouvent toujours à l'intérieur des salles lors de la passation des épreuves. C'est parce qu'il y a un système qui est très bien organisé. Il y a un système qui est très bien orchestré. C'est le système de la fraude. On sait qu'il faut, on fait tout pour qu'un enfant puisse se retrouver avec les téléphones, pour que les réponses viennent de l'extérieur et parasiter à de l'intérieur, pour que cela facilite la tâche à ceux qui veulent recourir à la fraude. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Mais officiellement, c'est interdit, mais la fraude fait que les téléphones puissent se retrouver dans la salle. Même la machine à calculer est interdite, mais malheureusement, elle se retrouve toujours dans la salle.
Bien. Vous étiez en train d'identifier les différentes formes de tricherie. Vous avez parlé du suivi de l'examen d'État, la fuite des questionnaires, l'usage des téléphones et calculatrices, l'intrusion des mercenaires, les labos, tout ça. Quelles sont les autres formes de tricherie que vous avez identifiées au cours de votre enquête?
Nous avons aussi d'autres éléments, notamment... l'accès aux résultats de l'examen d'État, ça c'est une fraude qui est organisée au niveau institutionnel de la République, parce que dans cette fraude, on monnaie l'accès aux résultats. C'est quand même paradoxal, l'enfant qui, d'ailleurs malheureusement, paye le frais pour participer ou présenter les examens, il devrait en principe recevoir de l'État organisateur les résultats de son examen, mais malheureusement, la fraude massive fait que cet enfant soit taxé en termes de frais ou de fonds pour connaître les sorts de sa vie ou de son cursus scolaire. Donc, l'État organise avec les entreprises de télécommunications ce système d'accès aux résultats moyennant l'accès des crédits. Les enfants sont victimes du monnayage et des marchandisations de l'éducation et ils sont angoissés et stressés quand le feedback n'est pas certain ou faute de défense technique des réseaux cellulaires. Et dans cette fraude, l'enfant paie jusqu'à recharger ou envoyer la demande d'information jusqu'à 3, 4, 5 fois, autant de fois, et ils enregistrent des pertes énormes.
Mais Serge, lors de la publication des résultats, mais avant il y avait des palmarès. Ce système de palmarès n'existe plus?
Le système de palmarès maintenant s'est transformé à une sorte de palmarès, un bulletin spécial par l'agence congolaise de presse qui est aussi vendu. Mais nous pensons que si le ministère a la volonté de faire avancer les choses, rien n'empêcherait qu'aussitôt les résultats sont disponibles de les placer dans le site internet du ministère pour que les enfants accèdent facilement à leurs résultats.
Bien. Vous avez... on va accueillir un auditeur, Serge, je reviens à vous tout à l'heure. Sadiki, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Sadiki? Bienvenue.
Merci. Quand on prend en charge les enseignants régulièrement, en les remettant dans le doigt qui sont les leurs. Là, la tricherie ne devrait pas avoir lieu. La deuxième question, je voulais dire, c'est concernant le ministère de l'EPST. Des personnes qui viennent dans ce secteur-là et qui ne sont pas habilitées à œuvrer dans le secteur et qui occasionnent les compétences et l'irrégularité parfois des attributions que la personne devrait devenu géré. Tout à fait, il y a des blabla, il y a des ça et des... Et puis moi, quelqu'un qui a fait l'agronomie, il vient les tester, quelqu'un qui a fait la médecine, il vient les tester parce que son frère est député, son frère est colonel, son frère. La politique est en train aussi de contribuer à la tricherie et à la baisse du niveau scolaire au niveau de la RDC.
Bien.
J'ai soumis aussi ma troisième opinion, s'il vous plaît, c'est concernant les attitudes que les inspecteurs parfois ont dans les centres des examens d'État. Ils viennent là en arrivant seulement les staffs techniques où est placé ou localisé le centre d'examen d'État, vient déjà lui informer que nous, en étant venus ici, nous avons déjà réservé telle chose, en fait, nous accorder une latitude là, de faciliter nos enfants. Vous savez, ce n'est pas pour qui aller...
Oui, je comprends. Ça dit que merci. Donc les inspecteurs sont déjà amadoués bien avant. Ils ont leurs enveloppes sont déjà préparées pour le neutraliser. Voilà. Comme ça, la corruption va se dérouler sans problème. Serge Bondedi.
Oui, effectivement, comme Sadiki l'a dit, la prise en charge des enseignants. Je crois que je l'ai dit plus tôt. Il y a ces sérieux problèmes de la sécurité sociale, l'absence de la sécurité sociale qui est aussi un élément, je crois même le principal élément moteur de la corruption dans la société et particulièrement dans notre société, parce que l'enseignant n'a pas un statut d'agent des carrières de l'État au stade actuel, c'est un journalier, ce qui fait que quand il décède, 6 mois après, on élague son nom, ainsi de suite. Et là, je crois que je peux exhorter les syndicalistes à travailler durement là-dessus parce que il est important qu'il y ait des améliorations socio-professionnelles des enseignants. Mais du point de vue moralité publique, cela ne nous donne pas la libre cours à recourir aux antivaleurs ou même aux moyens illicites.
Oui, Serge Bondedi, il y a quelques années, les années antérieures, on a suivi les informations des élèves qui se sont pendus parce qu'ils ont échoué alors qu'on les avait assurés qu'ils allaient réussir, ou des élèves qui ont toute la classe qui a échoué, ils vont chez l'inspecteur, disons, chez le préfet, mettre le feu à la maison du préfet ou chercher à les tabasser.
Exactement, c'est ce qui se passe très souvent, parce que vous savez, l'examen d'État est devenu une occasion propice où les gens s'achètent des parcelles dans ces pays, où les gens se construisent des immeubles, parce que il faut sortir avec le butin, il faut sortir avec tous les avantages illicites induits, donc et pour arriver à ces fins. Ce sont des enfants qui sont rançonnés et la situation sociale économique des ménages, nous le savons tous. Il y a des parents dans des villes urbaines qui vont jusqu'à dépenser jusqu'à $2,000 pour que les enfants obtiennent les diplômes d'État. Et ce sont des économies qui sont faites. Et si à la fin le résultat n'est pas celui escompté, c'est ça qui cause ces genres de dommages. Donc, il est important que les familles, le ménage et les enfants comprennent que le seul moyen d'arriver à la réussite, c'est de préparer ses études convenablement. Mais malheureusement, l'environnement des apprentissages ne favorise pas cet aspect des choses. C'est qu'il favorise le dénivellement vers les bas. Tout le monde veut recourir à la fraude. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Et les inspecteurs qui sont amadoués dans les écoles, parce qu'ils tiennent la clé des voûtes de la réussite et ils font des rapports parfois pour... Il y a ces écoles qui ne font jamais des 100% tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu donner le butin.
Serge Bondedi.
À l'inspecteur.
Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ONG IMAE, Young Men Association for Education, et coordonnateur de la campagne Ecoleza Mombongote. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine. Mesdames et messieurs, nous mettons ainsi un terme à cette première partie de l'émission. Capi Service, nous allons suivre les informations. On va souffler un tout petit peu. Et on se retrouve juste après dans la deuxième partie de l'émission au Capi Service.
Radio Okapi.
Okapi Service.
Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien, c'est la deuxième partie de cette émission consacrée à la lutte contre la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État. Et merci à vous qui venez de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou qui nous écoutez à Kinshasa et à travers le pays. Alors, je le disais tout à l'heure que les candidats finalistes de l'année scolaire en cours s'apprêtent à passer les épreuves de la grande session de l'examen d'État et déjà... Ils passent les hors-sessions. Les promoteurs des écoles, pendant cette période, mettent toutes les batteries en marche pour obtenir 100% des réussites, car il y va de la réputation de leur établissement. Et cela favorise toutes sortes de pratiques, comme par exemple le phénomène mercenaire, la fuite des items, la corruption des surveillants et des inspecteurs, le phénomène labo, la transmission des résultats par WhatsApp, SMS et autres. Il y a bien des pratiques sophistiquées, des tricheries qui se sont installées au fil des années. Alors comment lutter contre tout cela? Nous avons en ligne Jean Bosco Pouna, président du Réseau national des professeurs et enseignants des Français et secrétaire général du CINECAT, qui est le syndicat national des enseignants conventionnés et catholiques. Jean Bosco Pouna, bonjour.
Oui, bonjour.
La tricherie s'est installée au fil des années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre efficacement cette pratique?
Bon, il faut d'abord dire que lorsque nous parlons de l'examen d'État, eh bien, c'est l'évaluation la plus prestigieuse de notre système d'enseignement. Et donc, tous les acteurs de notre système, en réalité, devraient protéger cette évaluation certificative dans la mesure où l'évaluation permet à celui qui termine les humanités à pouvoir avoir son bac, son parchemin, son diplôme. Il se remarque aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, qu'il y a beaucoup d'actes de fraude et de pratiques de tricherie qui se sont installés depuis belle lurette. Mais pour juguler cela, je crois qu'il faut partir de la volonté politique de mettre fin à un système qui est décrié par tous les partenaires en commençant par les élèves. Parce que ces pratiques, eh bien, sont orchestrées par les élèves. Déjà, ils sont informés qu'il faut que vous puissiez vous préparer pour mettre à l'aise les surveillants. Mais les parents également tombent dans ces pièges-là, dans la mesure où les parents se préparent pour ce que les promoteurs d'école appellent les frais de suivi. Aucun parent ne résiste à ne pas donner ces frais-là. Il y a également les directions scolaires. Vous savez que l'examen d'État, c'est aussi les E13, c'est-à-dire que les écoles s'arrangent pour que l'évaluation au niveau de l'école soit la plus fantaisiste que possible. Ce sont des points qu'on arrange au niveau de la sixième année. Ce ne sont pas les vrais points que les enfants méritent. Et donc là, les directions scolaires sont complices. Et
C'est-à-dire que les écoles attribuent aux enfants des cotes très élevées.
Oui, des cotes, je dirais, aléatoires, fantaisistes. Ce ne sont pas les cotes que les enfants méritent. Eh bien, soit c'est trop élevé, soit ils essaient un peu de nuancer, mais en réalité, c'est pas les points, les véritables points que les enfants ont réussi pendant qu'ils poursuivaient les enseignements. Donc là, c'est un problème. Et vous avez les promoteurs d'écoles, notamment d'écoles privées, qui sont des véritables spécialistes dans l'achat des fuites, évidemment, qui leur viennent des inspecteurs. Donc, c'est autant d'abus. Mais pour les corriger, il faut une réelle volonté politique. Il faut également une prise de conscience au niveau des acteurs. Les enseignants doivent savoir qu'ils ne doivent pas marchander le point. Les écoles également doivent savoir que le 100%. Comment voulez-vous que lorsqu'on organise l'examen d'État, eh bien, les écoles se préparent pour que tous les élèves réussissent? C'est impensable. En tant qu'enseignant, nous savons, soit l'élève qui a bien travaillé réussit, soit il échoue. Mais à l'examen d'État, eh bien, les écoles se battent pour faire les 100%.
Et pourquoi
le problème de...
Et pourquoi faire les 100% pour avoir une bonne réputation?
Mais pour avoir une bonne réputation, parce que, bon, vous savez, au niveau secondaire, pour terminer, quand on arrive en sixième année, les écoles ont besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Et c'est un véritable problème. Il y a également La question relative au recrutement des surveillants, on ne recrute pas toujours les surveillants attitrés, les surveillants qualifiés. Eh bien, parfois, on les recrute au niveau des membres des partis politiques, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Eh bien, parfois, on recrute au niveau de ses proches, de ses connaissances. Quand arrive l'examen d'État, eh bien, dans les différents états-majors, dans les membres, dans les familles, eh bien, chacun prépare des listes qu'il va donner à X inspecteurs, etc. Ça pose problème lorsque cette évaluation est surveillée par des gens qui n'ont pas de qualité. Il y a également, je peux dire, des réformes qu'il faut apporter au niveau des critères de délibération. Déjà, au niveau des hors-sessions, les jurys oraux, la pratique professionnelle et puis la dissertation. Déjà, à ce niveau-là, il y a des véritables problèmes. Il y a des écoles qui s'arrangent pour que leurs enfants soient interrogés, leurs élèves soient interrogés par leurs propres enseignants. Et donc, ça pose problème. Voilà tout ce qu'on doit corriger pour que demain, nous puissions redorer l'image ternie. Mais il y a plus la volonté politique de pouvoir changer les choses.
Bien. Prince nous appelle de Kananga. Christian est à Kinshasa. Prince, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Bienvenue. Quelle est votre préoccupation par rapport à la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État?
Ma préoccupation, c'est de savoir comment sur le plan d'abord technique et aussi sur le plan professionnel. L'État congolais doit d'abord s'organiser, d'abord à payer les inspecteurs, parce que les inspecteurs ne sont pas bien payés. Et aussi, ça cause un bon moyen de la tricherie. C'est pourquoi, pour moi, et je demande à l'État congolais et au ministère de l'EPC de s'organiser aussi à appeler les inspecteurs. C'est aussi ma contribution que j'avais voulu aussi contribuer à part ça.
Merci, Prince de Kananga. Christian de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, merci la Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation c'est par rapport pour lutter contre la corruption aux épreuves de l'exétat. Donc moi je pense d'abord que nous devons avoir un enseignement de qualité. Parce que du fait que nous n'avons pas bénéficié d'un enseignement de qualité, les élèves auront toujours tendance à corrompre, à donner de l'argent pour en faire d'autres personnes participent à leur place. Parlons du système qui est couramment appelé aujourd'hui mercenaire. C'est parce que les finalistes n'ont pas pu bénéficier d'un enseignement de qualité. C'est pourquoi ce système est considéré aujourd'hui comme un moyen possible et autorisé pour les finalistes de participer aux épreuves de l'examen d'État. En tout cas, nous lançons un message pathétique à notre gouvernement congolais, très surtout aux enseignants, d'assumer leurs responsabilités au niveau de nos milieux éducatifs afin que ces finalistes se retrouvent et se sentent capables et même de présenter aux épreuves de l'examen d'État.
Bien, merci. Jean Bosco Pouna.
Oui, bon, je dois dire que ce n'est pas recevable lorsqu'on dit que les inspecteurs ne sont pas bien payés et donc ils doivent brader l'étape de l'évaluation, que non. Parce que vous savez, dans l'enseignement, il y a la moralité. Il faut absolument que les inspecteurs se mettent à leur place. Donc, nous pensons à notre niveau que les inspecteurs ne sont pas excusables lorsqu'ils sont mis au banc des accusés. On doit tout faire pour que la situation change. Ça, c'est d'une part. D'autre part, lorsque l'on accuse les élèves, moi, je pense que les élèves sont encouragés par les adultes. Ce sont les adultes qui sont véritablement auteurs de ces pratiques et ils entraînent les élèves. En ce moment-là, les apprenants vont se comporter de la sorte. Donc, il faut absolument qu'on puisse rationaliser cette évaluation parce que quelques années après l'examen d'État, lorsque l'examen d'État a commencé, je vais dire, eh bien, nous avons vu que c'était un examen prestigieux. Mais c'est au fil du temps que cette évaluation s'est galvaudée parce que, eh bien, il n'y avait pas assez de contrôle. Je donne l'exemple des contrôles du curriculum scolaire, qu'on appelle le C7. Eh bien, certaines écoles même ont renversé la pyramide. elle n'organise que les classes de sixième année. Ça veut dire que l'enfant n'a pas suivi les cursus normal. Et ce sont les adultes qui entraînent les enfants, les apprenants, à ce genre de pratiques. Il faut absolument que l'inspection générale de l'enseignement, qui a à qualité à pouvoir organiser les épreuves, que ce soit les TENAFEP ou encore l'examen d'État, il faut qu'il y ait vraiment des réformes pour qu'on puisse bannir toutes ces pratiques qui sont vraiment nombreuses. Et tous les acteurs de notre système d'enseignement sont au courant. Les élèves savent que nous avons des fuites. Les inspecteurs acceptent une certaine collaboration. Les surveillants, je vais parler du surveillant qui accepte la collaboration, oui. C'est-à-dire on organise la tricherie dans la salle de classe. Je crois que c'est toutes ces pratiques-là qui doivent être découragées.
Bien, nous avons Aline Moubake de Kisangani et Adélard de Matadi. Moubake, bonjour.
Bonjour, bonjour, hier.
C'est Jody. Quelle est votre préoccupation?
Ah oui, bonjour, Jody. Je m'en excuse. Ce qui est très horrible.
Pas de souci, pas de souci. Allez-y, quelle est votre question par rapport à la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État?
Vous savez, monsieur Jody, cela est tellement horrible et c'est même honteux au vu de ce que la nation serait en train de songer et de s'entendre pour tout un avenir. Le maire a besoin d'une jeunesse informée. Et quand on s'y rabat dans la pratique que nous serons en train d'observer très près, émanant de nos différents promoteurs, c'est là pour combien de fois que le chef, ceux qui se disent être chef de promotion sont bel et bien le premier à bien vouloir quoi détruire toute une nation et tout un avenir.
Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Bon, sinon, ce que je voulais juste adresser à l'invité, tout ce qui se passe et toutes ces pratiques font aux yeux des chefs, aux yeux des autorités. Voilà.
Oui, ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Merci voilà, d'avoir...
Aux grandes oreilles. Et puis quand cela se fait, c'est comme si les autorités elles ferment les yeux et c'est comme si rien n'était.
Bien, merci. Adélard, vous êtes en ligne depuis la ville de Matadi. Bonjour.
Oui, bonjour. J'interviens à partir de Matadi au Congo central.
Quelle est votre question par rapport à la tricherie?
Bon, d'abord, moi, je suis intéressé par l'émission. Quand j'étais en cinquième des humanités, on appelait déjà la cinquième année douane. Pour qu'on soit en sixième année, il faut d'abord qu'on paye quelque chose pour les dédouanements. La tricherie est favorisée par les formateurs eux-mêmes.
Voilà, elle est favorisée par les formateurs eux-mêmes. Merci. Oui, donc,
J'ai pas terminé.
Allez-y.
Je voudrais que la loi soit appliquée par ces mêmes formateurs au cas où les mêmes cas soient découverts par l'État congolais.
Bien.
Mon problème, c'est quoi? Il y a déjà des enseignants, des universitaires qui s'habillent en uniforme actuellement en sixième des humanités, qui partent faire l'examen d'État. Je sais qu'ils ne sont pas eux-mêmes, il y a déjà qui favorisent ces mêmes cas. Alors, ces gens qui favorisent ces mêmes cas, ils savent que même, il y a même des inspecteurs des écoles secondaires qui savent que ces cas déroulent. Alors, pour les macarons qu'on donne, on met des photos. Même des photos qu'on met là-bas, il n'y a même pas de suivi. Au cas où il y a quelqu'un qui est découvert, il n'y a pas même d'intervention par rapport à ces cas. Alors ça c'est un crime scientifique.
Bien, merci. Adélard de Matadi pour cette intervention. Jean Bosco Pouna, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Il faut dire que vous avez suivi, je crois que... les compatriotes qui viennent de parler, c'est un ancien élève qui parle de l'opération douane, donc en cinquième année déjà pour passer. Et donc, ici, il faut dire que lorsque l'on attrape quelqu'un en train de favoriser la tricherie, si la loi s'appliquait, ça serait une bonne chose et les gens allaient se décourager. Mais malheureusement, eh bien, c'est un système qui est entretenu. Il faut absolument qu'on puisse appliquer la loi. Vous prenez par exemple ce que les camarades viennent de dire, l'opération Cozinda. C'est ça qu'on appelle le mercenariat. Vous comprenez? Le mercenariat. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas qualité, qui a étudié, qui a des grands diplômes, mais eh bien, on profite peut-être de sa taille pour qu'il puisse faire cette... pour qu'il puisse être mercenaire.
Et
c'est
la,
ça l'opération Kozinda.
Kozinda,
comment lui donner les macarons?
La personne est habillée en uniforme et puis a un macaron avec sa photo dessus.
Mais tout à fait, avec la photo dessus. Et puis même s'il est attrapé, eh bien, on négocie avec les chefs de centre. Cette situation passe comme une lettre à la poste. Et je crois que c'est vraiment un problème. Il y a également l'opération Kangamisu. Kangamisu, c'est-à-dire que les enfants, les apprenants sont dans la salle de classe, ils travaillent. Eh bien, le surveillant n'est que des noms. Au lieu de surveiller les élèves, mais ils surveillent le chef de centre ou encore les différentes autorités qui peuvent arriver au niveau du centre. Et donc, les élèves, en ce moment-là, eh bien, ils cotisent 5 000. Je ne sais pas cette année, ça sera combien. Et à la fin, c'est de l'argent qu'on remet aux surveillants. Ça, c'est l'opération Kangamisu. Et c'est grave.
Oui,
donc, au-delà... De la course pour les 100%, de la priorité même aux 100 dossiers, c'est-à-dire il y a des élèves qui n'ont pas de dossier mais qui participent à l'examen d'État. Tout ça, ce sont des pratiques qu'on doit corriger pour qu'on ne continue pas à accuser cette évaluation qui a presque perdu de la valeur.
Jean Bosco Pouna, à un certain moment, le ministre Mbikaye, alors qu'il était ministre de l'ESU, avait demandé carrément qu'on supprime cette évaluation à cause de ce genre de situation, la tricherie à grande échelle, alors que les enfants n'ont pas de niveau. Ils terminent les humanités, ne savent pas bien lire ni écrire.
Ouais, mais vous savez qu'à cette époque-là, nous sommes insurgés contre le ministre Mbikaye, je me rappelle, parce que nous avons vraiment fustigé le fait qu'on devrait supprimer une évaluation. Vous savez, quand le maître a formé, il doit évaluer. En réalité, l'évaluation, c'est un processus de routine dans le travail que fait l'enseignant dans la salle de classe. Eh bien, lorsque nous prenons l'examen d'État, c'est justement un moyen pour permettre à cet élève, à cet apprenant, de pouvoir prendre un nouveau programme, notamment à l'université. Mais en fait, ce n'est qu'une évaluation, ce n'est qu'un examen qui ne peut pas ne pas exister. Parce que si vous enlevez l'évaluation, c'est une des parties du processus éducatif que vous mettez de côté. Alors, il faut dire que l'évaluation examen d'État aujourd'hui, vous savez combien d'élèves participent à cette session et combien on a demandé aux parents. C'est aussi une affaire. Dès lors que cet examen est devenu une affaire, eh bien, vous comprenez que c'est pourquoi nous avons tout ce que nous déplorons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, on était en train de faire un plaidoyer pour que même l'ex-État puisse être gratuit dans le contexte de la gratuité. Vous allez voir que ça va décourager tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, il faut absolument mettre des mesures de correction pour que finalement cette évaluation puisse avoir la valeur qu'on lui avait donnée autrefois. Parce que telle qu'elle se déroule aujourd'hui, c'est une évaluation vraiment de complaisance et c'est vraiment dommage.
Bien, nous avons en ligne Jean-Marie Tantoumeil, promoteur du bureau d'éveil et d'action culturelle, BAC en sigle. Jean-Marie Tantoumeil, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous déplorons la tricherie à grande échelle lors des épreuves de l'examen d'État. Alors, en tant que promoteur du bureau d'éveil, qu'est-ce qui peut être fait pour lutter contre ces pratiques de corruption qui se sont enracinées depuis des années?
Bon, je pense que le BAC exhorte l'inspection, dont le responsable est préoccupé de tout ça, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette tricherie, tout ce commerce ne puisse pas continuer. Et le BAC compte sur
Monsieur Jean-Marie, il y a des gens qui parlent autour de vous, on les entend très bien et ça dérange. Si possible de vous retirer à un endroit beaucoup plus calme. Voilà.
Maintenant ça va, je peux continuer.
Voilà, maintenant ça va, allez-y.
Oui. Je disais que il y a lieu que l'inspection, dont le responsable est très compétent, puisse tout faire pour endiguer ce mal de l'examen d'État. Question que tout le monde, parents, inspecteurs, puissions mettre toute notre bonne volonté pour endiguer.
tout, c'est question de volonté. L'homme est perfectible.
Voilà, qui doit faire quoi, à quel niveau, que doivent faire les autorités, les parents et vous, les organisations de la société civile, quelle est aussi votre part pour combattre ce mal?
Pour combattre ce mal, c'est le Congolais. Tout le monde qui travaille est un Congolais. Le mal est dans le comportement du Congolais en général. Si les parents qui envoient les élèves à l'examen peuvent contrôler leurs enfants, il n'y aura pas de tricherie. Il faudrait que les parents, l'inspection, les enseignants, les surveillants puissent se mettre ensemble pour empêcher la tricherie, pour empêcher ce qu'on appelle communication et des points avec des gens à l'ombre qui aident les élèves. Donc ça dépend de nous tous. C'est une faute collective et l'inspection est en train de tout faire, pensons-nous, pour corriger ce mal-là. Du moins, à ce que je sache, l'actuel inspecteur est de bonne volonté, il fait tout, mais c'est l'homme congolais en général qui est responsable, qui est coupable. La faute est collective.
Bien. Tout à l'heure, Jean Bosco Pouna, qui est le secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, a proposé qu'on rende cet examen carrément gratuit, que l'examen d'État devienne gratuit. Ça pourrait, en quelque sorte, diminuer la tricherie.
C'est le vœu de nous tous que l'examen soit pris en charge par le gouvernement, par l'État. Malheureusement, jusqu'ici, malgré le vœu de nous tous, le gouvernement n'arrive pas à prendre en charge l'examen d'État. Parce que, dit-il, il a tellement de problèmes qui assaillent. Vous savez, aujourd'hui, même les députés provinciaux ne sont pas payés. Il y a tout le monde qui travaille chez l'État qui n'est pas rémunéré. L'État, malheureusement, n'arrive pas à prendre en charge cet examen d'État. Nous avons fait le plaidoyer, vous savez, avec la coordination catholique, on a fait ce plaidoyer. Jusqu'ici, rien ne se fait parce que notre État, aujourd'hui, vous savez comment tout le monde regrette, les médecins, les professeurs ne sont pas payés. C'est un problème qui demande qu'il y ait une prise de conscience des gouvernants, le gouvernement qui doit donner les moyens au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Si le ministère n'a pas les moyens, le ministre et l'inspecteur général ne peuvent pas opérer des miracles. C'est ce que nous avons compris dans tous les contacts que nous avons pris et le plaidoyer que fait le BAC depuis plusieurs années.
Alors, faut-il sensibiliser aussi les parents d'élèves? Parce que si les parents ne donnent pas l'argent de suivi, eh bien, les enfants ne vont pas se lancer dans la corruption, bien que souvent ils font beaucoup pression sur les parents parce que l'école aussi les fait pression.
Vous savez que les parents sont pour beaucoup dans le suivi, entre guillemets, dans la tricherie. Il y a des parents qui n'acceptent pas que son enfant puisse le prendre une classe. C'est une question du Congolais. Le mal est dans le Congolais et le parent congolais préfère voir son enfant passer des classes, avoir un diplôme d'État pourvu qu'il ne puisse plus payer pour une même classe deux fois. C'est les parents. Nous devons faire un travail important au niveau de tous les parents, au niveau de tous les Congolais. Le mal, nous le répétons, est collectif. C'est un mal congolais et c'est eux qui favorisent, qui poussent même les écoles, surtout quelques écoles, les écoles généralement privées, pour payer l'argent afin d'avoir les 100%. Le mal est dans les parents congolais. C'est le parent qui donne l'argent à l'enfant. L'enfant ne vole pas l'argent. Il faut que le parent accepte que l'enfant reprenne une classe lorsqu'il n'a pas bien compris la matière.
Voilà. Je reviens à Jean Bosco Pouna, président du Réseau national des professeurs et enseignants de français, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Jean Bosco Pouna, qu'est-ce qui doit être fait, par exemple, au niveau des parents, pour que les parents s'élèvent et fassent obstacle à cette pratique?
Bon, je crois qu'au niveau des parents, en tant qu'éducateur, le premier éducateur de l'enfant, eh bien, les parents doivent conscientiser les élèves, leur faire voir que si c'est de l'argent de suivi, il n'est pas question qu'ils puissent collaborer par rapport à cela. Et les parents, dans leurs différentes associations, peuvent également faire pression au niveau de l'école. Parce que si l'éducation n'est pas de qualité, eh bien, les enfants, même s'ils sont porteurs d'un diplôme, ils ne vont pas être en mesure de pouvoir défendre ce diplôme-là. Donc, les parents doivent veiller à l'éducation qui est donnée à leurs enfants. Le diplôme qui est mérité, eh bien, c'est un diplôme qui va servir. Mais si c'est un diplôme qui n'est pas mérité, nous remarquons des lacunes au niveau dans les chefs de ces différents élèves à qui nous donnons des diplômes. Vous avez suivi à une certaine période, il y avait un diplôme qu'on appelait le diplôme Macaire. C'était vraiment regrettable. Et donc, il y a beaucoup de facilités qui font aujourd'hui que les enfants...
Et pourquoi ça s'appelait ainsi, diplôme Macaire?
Bon, c'est comme ça que les élèves avaient surnommé parce que, vous savez, les enfants n'échouaient pas. Regardez, avec dans ce contexte de Covid, c'est à quoi nous allons assister. Soit les enfants tous vont réussir, soit nous aurons des échecs catastrophiques qui ne seront très loin de l'objectivité. Et donc,
Jean Bosco Pouna, est-ce que les enfants ont eu suffisamment le temps de se préparer pour passer ces épreuves?
Bien, il faut dire que les enfants ne se sont pas suffisamment préparés. Nous avons milité en faveur de notre calendrier. L'État s'est imposé. Il sera responsable de tout ce qui va arriver. Parce que soit ces élèves vont terminer avec beaucoup de lacunes, beaucoup d'insuffisances, mais ils auront leur diplôme. Soit, eh bien, ils vont simplement échouer. Nous allons voir ce que ça va donner à la fin. Or, le travail du maître, quand il a enseigné, eh bien, il doit évaluer en respectant les règles de docimologie pour que l'enfant soit correctement évalué. Mais nous pensons que ça ne sera pas le cas pour cette année avec tout ce que nous avons connu. Il y a également la question relative à la conscientisation de tous les acteurs. Il faut absolument des séances, des campagnes de sensibilisation des acteurs, non seulement des parents, mais aussi des gouvernants. Il faut que l'inspection générale sache que les surveillants, l'examen d'État, a une certaine qualité. Ce sont les enseignants des primaires, du primaire, au terme de la loi, qui doivent surveiller. Et donc l'inspection générale ne doit pas toujours céder à la pression du cabinet. Vous comprenez? Donc il faut absolument qu'on puisse sélectionner le surveillant pour que le travail se fasse correctement. Et puis, s'il nous revenait à donner un autre conseil, c'est qu'il serait peut-être important de pouvoir éliminer les élèves à partir de la session, de hors session. Un élève qui ne sait pas se défendre à l'oral ou encore qui a fait une très mauvaise dissertation. Si on arrivait déjà à cette étape-là à disqualifier les apprenants, je crois que ça va permettre que les enfants puissent véritablement étudier et obtiennent un diplôme qu'ils vont devoir défendre. Donc autant de réformes qu'il faut mener pour requalifier cette évaluation qui est vraiment ternie.
Bien, nous allons accueillir Antoine depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État?
Oui, ce que nous voyons ici à Kananga, nous voyons comme les finalistes qui sont maquis, mais le gouvernement congolais avait interdit les maquis ici au Kasaï central. Mais ce que nous constatons, nous voyons des maquisards partout là. Il y avait même des jeunes filles qui étaient chez eux, allaient s'installer au maquis avec des enfants ensemble. Mais je ne sais pas, ici nous avons le service de renseignement national comme l'ANR. Mais nous ne voyons pas le service de l'ANR ici. Ce sont les gens qui sont corruptibles parce que quand ils entrent là-bas au maquis, ils trouvent les élèves là-bas en chantant, il y a des chefs partout là. Ils peuvent donner 10 000 francs, 20 000 francs, non, monsieur, pour vous laisser, et nous nous comptons avec notre vie. Mais je ne sais pas, quel gouvernement que nous avons ici au Congo, hein, c'est ça l'État même que l'ANR allait faire des suivis partout pour vérifier, parce que nous voyons dans les centres des examens, il y a tous les chefs des centres, même les préfets des États, ce sont eux qui sont à la base de tout cela. Parce qu'ils sont eux qui demandent l'argent aux étudiants, quoi, aux élèves. Il faut cotiser l'argent, aller faire des recherches dans des centres, partout ailleurs. Mais ce que nous déplorons ici au Congo, mais quel genre d'enseignement? D'ailleurs, nous commençons d'abord au niveau national, jusque dans les provinces.
Bien, merci Antoine de Kananga. Comment lutter efficacement contre la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État? Jean-Marie Tantoumeï, vous avez suivi la proposition de Jean Bosco Pouna. Il faut mener une campagne de sensibilisation contre la tricherie lors de l'examen d'État. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet, Jean-Marie Tantoumeï?
Il ne faut pas mener la sensibilisation pendant les examens. Il faudrait que tous les jours, que le Congolais apprenne à être correct, à être honnête. On ne peut pas brusquement devenir correct pendant les examens d'État. C'est tout un processus. C'est une éducation générale, une sensibilisation de tous les temps, de toute l'année. Il faudrait que ce soit dans l'éducation, dans la culture. Lorsque le Congolais est habitué à tricher partout, il ne va pas brusquement changer pendant la semaine de l'examen d'État. Et quant au fait que les élèves n'ont pas été bien préparés, certes, ils n'ont pas eu tous les cours, mais nous pensons que ceux qui seront diplômés avant d'aller à l'enseignement supérieur devraient passer un test pour qu'on impose le test à toutes les écoles, même les écoles privées, enseignement supérieur privé, pour qu'on puisse tamiser, n'admettre en première année graduat que ceux qui auront sorti au test. Les autres vont se préparer avant d'aller à l'enseignement supérieur. On ne peut pas aujourd'hui reculer parce que si on garde ceux de la sixième année sans sortir de la sixième, ceux qui sont en cinquième n'auront pas où aller. C'est une situation obligée par la pandémie, mais en récupérant une formation avant d'aller à l'enseignement supérieur, par exemple, une année préparatoire avant de passer en première année graduat. On peut rendre ça obligatoire dans tout l'enseignement supérieur et universitaire.
Bien. Et Jean Bosco a proposé également qu'au niveau de la dissertation, comme les enfants passent déjà les hors sessions, au niveau de la dissertation, si on constate que l'enfant n'a pas de niveau directement, on peut le récaler.
Je reconnais la valeur de la dissertation, mais on ne peut pas récaler un élève parce qu'il a échoué dans une branche. La réussite, c'est l'addition de toutes les branches. Ce serait regrettable. D'abord, la dissertation ne sera pas corrigée d'ici une semaine. Ça prend du temps pour corriger une dissertation. On ne peut pas d'ici le 7 septembre et corriger la dissertation. Donc, c'est une difficulté réelle, mais on doit faire la moyenne. On ne peut pas récaler les élèves après l'oral ou la dissertation. Parce qu'un élève peut être faible en dissertation, à l'examen oral, mais être fort dans les branches techniques. Et puis, vous savez, ici, parfois nous pensons que celui qui parle bien français est intelligent. Non, le fait de bien parler français n'est pas signe d'intelligence. Il y a toute une somme de connaissances qu'il faut avoir pour avoir un diplôme d'État ou un diplôme universitaire. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse récaler ceux qui auraient échoué en dissertation, encore qu'elle ne sera pas corrigée et terminée avant la session ordinaire qui intervient le 7 septembre.
Bien, nous allons accueillir Kalonga de Kananga. Bonjour.
Et bonjour, vous dites quoi?
Kalonga, on vous accueille et bienvenue dans cette émission. Quelle est votre question par rapport à la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État?
Ok, pour moi, donc, qu'est-ce que les inspecteurs vont faire pour ne pas être intégrés aussi dans ce sujet-là, de voies de tricherie et autres corruptions? Qu'est-ce que les inspecteurs aussi vont faire à leur tour? Et aussi l'État congolais doit faire aussi quoi? La question il vient à blesser.
D'accord, merci. Jean Bosco Pouna, qu'est-ce que les inspecteurs doivent faire pour ne pas être trempés, pour ne pas s'impliquer dans la corruption?
Non, mais les inspecteurs, ils ont un rôle à jouer. Et donc, ils savent que tel que l'examen d'État se passe actuellement, eh bien, c'est une évaluation de complaisance. En tant qu'inspecteur, ça ne les honore pas. Donc, tout ce que nous demandons aux inspecteurs, c'est de bien faire leur travail. C'est comme un enseignant qui est dans une salle de classe et qui distribue des points aux élèves. eh bien, ça sont des enseignants au niveau des écoles conventionnelles catholiques qui sont presque radiés. Dès qu'on vous surprend, eh bien, votre place n'est plus là. Donc, je crois qu'il faut que cette moralité-là revienne. Le métier d'enseignant exige de la compétence et de l'éthique. Dès lors que l'inspecteur ne joue plus ses rôles, eh bien, ça pose problème. Évidemment, on ne peut pas accuser à tort tous les inspecteurs. Il y a des inspecteurs qui font correctement leur travail. Je reviens ici à la campagne de sensibilisation. Je crois qu'il est important que la campagne de sensibilisation soit menée véritablement au début de l'année pour que les élèves se préparent, notamment les élèves de finalistes, qui se préparent à pouvoir gagner honnêtement leur diplôme. Je crois que cette campagne-là s'impose. Il y a également la réforme aujourd'hui qui s'impose. Il faut absolument qu'on revoie la situation des correcteurs. Hein, lorsque vous donnez 200 copies à un correcteur, corriger la dissertation, vous comprenez que c'est quand même grave. Ce correcteur, qu'est-ce qu'il va devoir faire?
Jean Bosco, on nous dit souvent que la correction s'est faite par ordinateur. Tout est déjà programmé et puis la machine fait le travail.
Oui, mais la machine fait quel travail? Ce n'est pas à l'étape de l'oral. Donc là-bas, vous devrez avoir l'enseignant qui doit suivre l'enfant et puis la dissertation. Mais ça, c'est encore corrigé. Donc, je parle d'abord de cette phase-là avant de prendre maintenant la phase qui est informatisée. Donc, il faut absolument que le travail se fasse à ce niveau-là. Il faut cette campagne pour conscientiser tous les acteurs, en commençant par l'élève. Nous prenons les parents, nous prenons les chefs d'établissement, les enseignants et aussi les cabinets ministériels, parce que lorsqu'on envoie les surveillants, eh bien c'est Kinshasa qui bouge, ce sont les provinces qui bougent, c'est chacun qui veut envoyer quelqu'un pour aller surveiller, même ceux qui n'ont pas qualité, et donc ça pose des véritables problèmes. J'ai dit simplement qu'il faut une campagne et il faut réformer la passation de l'examen d'État, la correction de l'examen d'État. Ce n'est que à ces conditions-là qu'on pourra encore redorer l'image de cette évaluation.
Bien.
Comment... Et puis, je voudrais ajouter,
oui.
Est-ce qu'on ne peut pas accepter, par exemple, les observateurs de surveillance de l'examen d'État, donc des structures qui peuvent surveiller, qui peuvent observer le déroulement de l'examen d'État?
Comme ça s'est fait, comme ça s'est fait avec les élections.
Oui, mais bien sûr. Il y a une période où nous avons proposé ça au ministère de l'EPST, observateur bénévole de l'examen d'État. C'était d'ailleurs à titre bénévole, mais le ministère n'avait pas accepté, comme si on cachait quelque chose. Il faut que nous ayons des observateurs indépendants, bénévoles, qui viennent dans les centres voir ce qui se passe. Donc je crois que s'ils sont accrédités, ça sera une très bonne chose pour essayer de mettre de l'ordre. Parce qu'il y a du désordre que tout le monde déplore et personne ne veut prendre des mesures de correction.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Capi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Au Capi Service, jeudi Daniel Kachama.
Comment lutter contre la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État? Clément nous appelle depuis Arou. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit.
Quelle est votre question, Clément?
Je commence par la préoccupation. Je disais dans mon commentaire que ces phénomènes de la tricherie aux ex-États, ça ne m'étonne presque pas. Parce que pour nous, à l'intérieur, vraiment, nos affaires se démènent et ils étudient, ils travaillent individuellement jusqu'à la fin. Ils méritent ce qu'il faut vraiment.
Vous voulez
cette
dire que là-bas, à Arou, ces pratiques-là n'existent pas?
Ça n'existe pas, sous toutes ses formes. En tout cas, la surveillance se fait très bien et tout se déroule normalement.
Bien. Oui. Merci de votre...
J'ai une question pour terminer.
Oui.
Alors, ma question est celle-ci. Est-il évident d'affirmer que le lauréat du pays ayant le plus haut pourcentage se retrouve toujours à Kinshasa ou dans des grandes villes avec tous ces phénomènes de tricherie? Est-ce que c'est vraiment évident?
Voilà ma question. Merci pour la question, Clément. Jean-Marie Tatoumeï, qu'est-ce que vous pouvez dire à Clément?
Je dois lui dire que l'homme ne change pas d'un jour à l'autre. C'est nous tous, je le répète, qui devons travailler pour que la tricherie partout, même dans nos maisons, puisse prendre fin. Bien sûr, le gouvernement, par le ministère de l'EPST, doit tout faire pour qu'à l'école, dès la maternelle primaire, qu'on puisse habituer l'enfant à ne pas tricher, à donner des sanctions sévères à tout élève, à tout écolier qui triche. C'est un processus, c'est une éducation qui doit faire que, après 12 ans, l'enfant est habitué à être sincère, à être ouvert. Le problème du Congolais, c'est que il préfère la facilité. Il ne veut pas se soumettre à la discipline, à la réglementation. C'est partout où on observe cela, à la maison, dans la rue. Donc, ne donnons pas seulement la faute à ceux qui gèrent l'école. L'école est gérée par les Congolais. Et le Congolais, presque partout où il est, observé, même dans la presse, combien sont assez, qui ne peuvent être sincères, qui ne peuvent être corrects. C'est une éducation, une culture que nous devons donner à nos enfants dès la maternelle, les primaires et les secondaires. Il faut que partout, nous tous, nous puissions participer à une vie correcte, à une vie respectant la loi, les normes.
Bien, merci Jean-Marie Tantoumeï. Je rappelle que vous êtes promoteur du Bureau d'éveil et d'action culturelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Okapi Service, un coup de projecteur de plus sur le problème qui vous préoccupe au quotidien. Okapi.
Bien, Jean Bosco Pouna, vous avez suivi Clément depuis Yarou, qui dit, il s'étonne comment tous les lauréats qui obtiennent beaucoup de points sont toujours dans les grandes villes, à Kinshasa particulièrement, où règne la tricherie à grande échelle.
Bien, mais bon, ce n'est pas toujours vrai ce que notre ami de Yarou dit. Et donc, comme il a si bien dit, bravo à Yarou aussi. Les pratiques de corruption ne sont pas encore allées là-bas. Donc, bravo. Mais il faut dire que si l'élève a très bien travaillé où qu'il se trouve, eh bien, il peut être lauréat. Peut-être que les camarades, les élèves qui sont en province, peut-être qu'ils sont parfois préjudiciés, dans la mesure où, vous savez, dans les grandes villes, eh bien, il y a beaucoup de préparations qui se font. Les élèves se rapprochent parfois de ce qui pourra être posé comme question à l'examen d'État. Donc il y a un entraînement qui se fait, ils s'entraînent sur les anciens items et les écoles parfois s'organisent pour qu'il y ait des inspecteurs qui viennent les entraîner. Peut-être que c'est cette organisation qui manque au niveau des provinces. Et de manière générale, si l'élève a très bien travaillé, qu'il soit à Yarou, à Beni ou à Matadi, ou encore ailleurs, à Kikwit, eh bien, il va devoir, s'il a bien travaillé, si c'est lui qui doit sortir lauréat, il le sera. Nous disons simplement que les premiers responsables de cette débâcle, ce sont les adultes. Nous allons nous interdire à pouvoir responsabiliser les apprenants, les élèves. Ce sont les adultes qui doivent changer, parce que je sache, le trafic des points est antipédagogique. Et les enseignants doivent se remettre en question, les inspecteurs davantage et tous les gestionnaires. Si nous nous remettons tous en cause, eh bien, nous allons avoir un autre examen d'État, une autre évaluation. Nous avons besoin d'une évaluation qui puisse crédibiliser les diplômes que nous allons donner aux apprenants et non tel que ça se passe aujourd'hui. Et donc, la réforme, comme je le disais, vraiment, ça s'impose. Il faut que le ministère qui a en charge l'EPST s'implique et implique véritablement l'inspection générale de l'enseignement. Cette inspection doit être responsabilité, elle doit être responsabilisée, elle doit jouer son rôle. On ne doit pas lui enlever ce qu'il a comme prérogative, et c'est en ce moment que ça fausse tout.
Bien. Alors, pour, avant de terminer, Antoine de Kananga a déploré le fait que les élèves corrompent même les agents des services de sécurité ou de la police pour se retrouver dans les maquis qui sont déjà interdits par les autorités. Comment expliquez-vous cela?
Bon, mais est-ce que si les adultes jouaient leur rôle, si les parents, les écoles jouaient leur rôle, bon, ces pratiques de maquis n'allaient plus continuer. Mais vous comprenez, on favorise les maquis, pourquoi? C'est effectivement dans les maquis qu'il y a des entraînements où on reçoit ce que les élèves eux-mêmes appellent les missiles. Donc les missiles qui viennent de partout, eh bien, ils s'entraînent au niveau des maquis. C'est pourquoi on n'arrive pas à interdire les maquis. Mais je crois qu'il y a quelques temps, le phénomène maquis n'existait pas. Donc c'est une situation qui est entretenue et il faut véritablement les décourager.
Donc les maquis sont des centres d'entraînement à la tricherie?
Ce sont des centres d'entraînement à la tricherie, et c'est prouvé aujourd'hui, parce que les élèves qui vont là-bas, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau des maquis, et ils attendent certains inspecteurs qui arrivent, ils attendent des enseignants qui sont allés chercher, vous comprenez? Et donc, dans les maquis, eh bien, on fait des véritables entraînements, et par rapport à ça, les élèves ne sont pas prêts à pouvoir les abandonner, et même les écoles d'ailleurs, les écoles disent tout haut qu'elles sont contre les maquis, mais tout bas, elles favorisent les phénomènes parce qu'elles savent que c'est là où les élèves vont véritablement s'entraîner. Et lorsque l'école fait 100%, eh bien, c'est le prestige de l'école. Demain, après-demain, eh bien, on aura un peu plus d'élèves. C'est ça le problème. Et plus d'élèves signifie qu'il y aura un peu plus d'argent. Aujourd'hui, les parents ont payé 85 000. C'est en faveur de ce contexte de gratuité. Mais je crois que demain, étant donné que nous avons un budget pour l'examen d'État, nous ne voyons pas pourquoi on doit continuer à demander de l'argent aux parents. Il faut que ces choses-là cessent pour que l'enfant qui est en sixième année suive normalement les cours. Et puis qu'on n'ait plus des écoles qui présentent seulement la classe de sixième année, au vu et aussi des autorités. Donc vous voyez des écoles qui n'organisent que les classes de sixième année. L'objectif c'est quoi?
C'est l'argent. C'est
donner des diplômes à tout ça.
Et gagner de l'argent. Voilà. Et gagner de l'argent,
gagner
bien
de l'argent,
sûr.
Naturellement. Parce que là-bas, les contrôles ne se font pas. Vous trouvez des gens qui n'ont fait que la quatrième année, mais qui se retrouvent en sixième année. Donc, les contrôles des dossiers, les curriculums scolaires des élèves, c'est une question qui est renvoyée au second plan.
Bien. Un auditeur a dit dans cette émission, tout au début, que l'agence des luttes contre la corruption mise en place par les chefs de l'État devrait ouvrir l'œil également sur cette affaire de la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État.
Bien sûr, nous pensons que cette agence-là doit être responsabilisée, parce que vous voyez, l'éducation, c'est le levier du développement. Lorsque déjà à l'école primaire, l'enfant sait qu'il peut tricher, quel citoyen deviendra-t-il demain? Lorsqu'au niveau secondaire, l'enfant qui termine les humanités, qui doit aller à l'université, il sait qu'on peut recourir à cette pratique-là. Eh bien, dès qu'il arrive à l'université, eh bien, il va devoir prolonger ces pratiques odieuses, ces pratiques négatives. Donc, nous pensons que cette agence a une première préoccupation, c'est d'abord l'enseignement. Parce que si l'agence s'est préoccupée de la campagne de lutte contre la corruption en période d'évaluation scolaire et académique, parce que ça ne concerne pas seulement les élèves au niveau secondaire, mais aussi au niveau académique, vous savez ce qu'on appelle les points sexuellement transmissible. Et donc, il faut absolument que cette agence joue son rôle. Si l'agence commençait par l'éducation, ça sera une très bonne chose et nous ne pouvons qu'encourager cette agence à pouvoir se préoccuper de cette question.
Bien. Alors, quelqu'un a proposé également pour lutter contre la corruption qu'on renforce la présence des policiers et des agents de renseignement dans les centres où se déroulent les épreuves.
Non, mais bon, mais vous savez, toute cette police qu'on amène au niveau des écoles, au niveau des centres, ce service de renseignement. Mais quand ils arrivent, eh bien, ils tombent dans le même jeu, ils tombent dans le piège. Donc, aucun service n'est épargné. Parce que lorsqu'un mercenaire est attrapé, eh bien, en principe, ce sont ces services qui devraient directement récupérer la personne. Et c'est la prison par rapport à la loi. Malheureusement, bon, ce sont des services qui ne font pas leur travail. C'est tous les acteurs, tels que nous l'avions dit au départ, tous les acteurs qui sont impliqués dans cette fraude, dans ces actes de corruption. Il n'y a personne à épargner. Si l'on veut changer, nous l'avions dit au début, c'est une volonté politique réelle de pouvoir mettre fin à ce système. Nous avions une fois rencontré l'inspecteur général à l'enseignement, mais on avait échangé sur la question. Il faut simplement dire que l'inspecteur n'avait pas tous les moyens de pouvoir changer les choses, parce qu'il reçoit aussi beaucoup de pression, beaucoup de pesanteur autour de lui. Donc, si la volonté politique de mettre fin à ce système odieux est là, eh bien, on y mettra fin. Sinon, alors, ça sera difficile. Nous pensons que la proposition d'avoir des observateurs, ça sera une très bonne chose. Et si l'agence est préoccupée aussi de la question, on va décourager beaucoup d'écoles qui pratiquent, qui recourent à cette pratique-là.
Bien, Jean Bosco Pouna, président du Réseau national des professeurs et enseignants de français et secrétaire général du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques SINECAT. Merci et à la prochaine.
Merci.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Le conseil du jour.
Comment conserver les fleurs naturelles le plus longtemps ? On vient de vous offrir un magnifique bouquet de fleurs et vous souhaitez le conserver le plus longtemps possible. Voici quelques astuces avec Thérèse Quincou.
Le sucre agit de manière très efficace sur la conservation des fleurs. Il suffit d'en ajouter une pincée dans l'eau pour nourrir les tiges et leur éviter de se décomposer. Au bout du 7e jour, vos fleurs devraient être complètement épanouies et durer encore quelques temps. Le charbon noir marche aussi pour les fleurs. Placez-en un petit carré dans votre vase et cela empêchera l'eau de croupir. C'est une astuce pratique quand on oublie d'échanger l'eau des fleurs. Pour conserver ces fleurs plus longtemps, il est aussi recommandé de couper leurs tiges en billets d'environ 1 ou 2 cm tous les 2 jours. Une opération qui permettra à la sève de mieux circuler et à vos fleurs de rallonger leur espérance de vie. Vous pouvez aussi placer vos fleurs naturelles au frigo dans leur vase avant d'aller dormir. Grâce à l'action du froid, elles absorberont mieux l'eau. Une astuce de grand-mère qui fait aussi ses preuves, c'est les bicarbonates des soudes. Comme pour les sucres, une seule pincée suffit pour que les fleurs tiennent au moins 10 jours. Pour que les résultats soient au rendez-vous, pensez à bien diluer les produits dans l'eau avant d'y placer vos fleurs. L'eau de Javel est aussi connue pour ralentir la prolifération des bactéries et la décomposition des fleurs coupées, mais elle doit être utilisée dans une moindre mesure. Au-delà d'une ou deux gouttes, vous risqueriez d'intoxiquer vos fleurs. N'oubliez pas que les premiers gestes sont également très importants lorsqu'il s'agit de conserver ces fleurs coupées. Utilisez un vase bien propre et assurez-vous que l'eau est à température ambiante et non glacée.
Bien, mesdames et messieurs, c'est la fin d'Okapi Service aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en RDC et même en dehors de nos frontières. Polydor Bansunga a assuré la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la réalisation, Marcel Ngombo était à la coordination. Au micro, aujourd'hui, Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.